Mesdames, Messieurs, mes bien chers amis, on m'a invité à faire une conférence au début de cette journée de prière. Journée de prière qui se fait sous la protection et par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Il y a un jour, nous fêtions l'anniversaire de Notre-Dame de Fatima. Ce mois de Marie est consacré à nos prières pour demander à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à l'imiter, à la suivre. Et c'est ce que je voudrais pendant quelques instants essayer de vous décrire, vous encourager à suivre et à imiter la Très Sainte Vierge Marie. Dans le combat qu'elle a mené contre Satan pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Selon la volonté même de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie est née pour un combat et au cours de toute l'histoire de l'humanité, elle est au centre de ce combat. Je ne veux pas en détail vous retracer cette histoire, mais cependant il me semble qu'il est bon de rappeler au moins les événements principaux de ce combat de la Très Sainte Vierge Marie contre Satan pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le péché d'Adam et d'Ève, notre Seigneur Jésus-Christ a promis la venue de la Très Sainte Vierge Marie et de son divin Fils. Et toute l'histoire d'Israël n'est pas autre chose que la préparation de Marie. Préparer celle qui sera digne de recevoir Dieu lui-même, le Fils de Dieu, pour accomplir ce combat et remporter la victoire contre Satan et contre tous les principes destructeurs de la vie, et particulièrement contre le péché, contre le monde, contre les scandales du monde. Notre Seigneur est venu pour nous sauver et par conséquent pour nous délivrer de tous ces maux qui nous entourent. Et la Vierge Marie a eu cette grâce extraordinaire d'être la mère de celui qui remporterait la victoire contre Satan, contre le monde, contre la mort. Et même après la victoire que notre Seigneur a remportée au calvaire sur sa croix, la Très Sainte Vierge Marie étant présente, et pour cela a été appelée co-rédemptrice, elle a participé intimement à notre rédemption et à la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas considéré que son rôle était terminé. Après l'ascension, elle était présente à la naissance de l'Église. Elle était présente au milieu des apôtres. Et le pape Pie XII dit d'une manière explicite que c'est par la Très Sainte Vierge Marie que les apôtres ont reçu la grâce qui leur a été donnée au jour de la Pentecôte, la grâce du Saint-Esprit, par la Très Sainte Vierge Marie. Elle était donc là à la naissance de l'Église. Le grand combat commencé au début de l'histoire de l'humanité allait continuer pour le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. et la très sainte Vierge Marie est la mère de ce corps mystique. Et par conséquent, elle va continuer tout au cours de l'histoire de l'Église. Nous voyons Marie présente tout au cours de ce combat, et particulièrement à certaines époques douloureuses ou dangereuses dans laquelle se trouve l'Église. Je prends un exemple, celui de Saint Pie V. Saint Pie V, craignant que les armées musulmanes envahissent la chrétienté et ne détruisent la chrétienté, Saint Pie V fait lever les armées par les rois chrétiens et appelle le monde entier à se mettre en prière. Quelle prière ? À prier la très sainte Vierge Marie. C'est cela, c'est parce que les chrétiens auront prié la très sainte Vierge Marie, c'est ce que dit le pape lui-même, que la victoire de Lépante a été remportée et qu'ainsi la chrétienté a été préservée. Victoire de la très sainte Vierge Marie. Une autre victoire aussi est celle que la très sainte Vierge Marie remporte à l'occasion de ses apparitions même dans l'époque moderne, apparition à Lourdes il y a un peu plus de 100 ans, apparition particulièrement à Fatima, où elle dénonce le péril du communisme. Elle montre par là sa vigilance et son amour des chrétiens, son amour de l'Église. Elle dénonce l'ennemi dangereux qui risque d'envahir le monde entier si on ne prie pas pour la conversion de la Russie. Des exemples aussi relativement récents nous montrent la puissance et le dévouement de la très sainte Vierge Marie pour ses enfants, pour ses fils. C'est au Brésil. Le Brésil est menacé par l'envahissement du communisme. Que font les Brésiliens à la suite de plusieurs évêques qui les encouragent? Les Brésiliens descendent dans les rues, le chapelet à la main. On envahit les places publiques, les boulevards, les grandes rues, et tout le monde prie. On prie le chapelet, on demande à la Vierge Marie d'être délivrée du communisme et le communisme disparaît. Et le Brésil est libéré du communisme par la prière à la très sainte Vierge Marie. Un autre exemple est celui du Chili. J'ai eu l'occasion de me rendre au Chili au cours de mes voyages et j'ai demandé aux Chiliens, comment avez-vous fait pour vous débarrasser du communisme ? Est-ce que ce sont les armées qui ont été les plus efficaces? Ils m'ont répondu immédiatement, nous savons, nous, quelle a été celle qui nous a délivrés. C'est la Vierge Marie. Dans nos familles, nous prions le chapelet, le soir, ensemble, partout, dans toutes les familles, on récitait le chapelet. Pour nous délivrer du communisme. C'est la Vierge Marie qui nous a délivrés du communisme. Voilà des exemples récents qui montrent la toute-puissance de la Sainte Vierge et le désir de la Sainte Vierge que nous continuons à combattre contre ceux qui veulent détruire notre foi, contre ceux qui veulent détruire le règne de son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, pendant 20 siècles, de l'histoire de l'Église, la très sainte Vierge Marie s'est trouvée auprès des catholiques, auprès des chrétiens, pour les soutenir dans leur combat. Et elle continue aujourd'hui à nous soutenir. Malheureusement, nous devons reconnaître que depuis le Concile Vatican II, c'est le pacifisme par l'œcuménisme qui règne. sous l'influence de cet œcuménisme qui est un esprit de pacifisme, une espèce de fraternité comme celle qui a été proclamée à la Révolution française, une fraternité qui détruit toute l'autorité, bien par cet œcuménisme qui a inspiré le Concile Vatican II et qui a inspiré les réformes après le Concile Vatican II, nous apercevons que le combat semble terminé. Il ne doit plus y avoir de combat. Il n'y a plus d'ennemis. Tout le monde est frère. On se demande vraiment si c'est l'histoire de l'Église qui continue. Devant cette constatation de cette union que l'on veut faire avec toutes les religions, où est la vérité? Où est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ? Où est encore le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ? Certainement, la Vierge Marie ne peut pas admettre cet œcuménisme. Car par cet œcuménisme, on a voulu changer l'orientation de l'Église. On n'a plus voulu considérer comme des ennemis de l'Église ceux qui combattent encore l'Église, ceux qui, loin de déposer les armes, luttent encore contre l'influence de l'Église et contre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, vous le savez, il est fréquent de voir des ministres des fausses religions venir dans nos églises. Nos évêques eux-mêmes invitent des pasteurs, invitent des bouddhistes, invitent des musulmans dans les bâtiments même des catholiques, dans des bâtiments religieux, dans les églises, dans les écoles, partout. Il semble que toutes les religions soient sur le même pied, que toutes les religions se valent, que toutes les religions ont des valeurs de salut. Ce n'est pas certainement ce que pense la Très Sainte Vierge Marie. Pour elle, il n'y a qu'un nom, il n'y a qu'un seul Fils qui peut donner la vie et qui peut nous sauver, c'est son propre Fils, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas d'autre nom, et nous non plus, nous ne pouvons pas avoir d'autre nom que celui de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Il n'est pas question pour nous de penser que nous pouvons nous sauver par Bouddha, par Luther, par Mahomet. Pour nous, catholiques, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un moyen de nous sauver, nous n'avons qu'un nom dans notre esprit et dans notre cœur par lequel nous pouvons aller au ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de la Vierge Marie. Notre vie chrétienne a toujours été considérée et nous a toujours été enseigné comme un combat, comme une lutte continuelle contre les suites du péché originel. Même après le baptême, c'est ce qu'enseigne le catéchisme du Concile de Trente et tous nos catéchismes traditionnels. Après que le péché originel a été effacé par la grâce du baptême, demeurent en nous les suites du péché originel et des tendances au péché contre lesquelles nous devons lutter toute notre vie, toute notre vie. Ainsi, la vie chrétienne est un combat spirituel mené avec notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et avec la Très Sainte Vierge Marie, avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, pour rétablir l'ordre en nous, rétablir les vertus en nous, rétablir l'homme tel que notre Seigneur Jésus-Christ l'a racheté, tel que notre Seigneur Jésus-Christ en a donné l'exemple. Voilà l'idéal chrétien. Et tous les saints nous ont montré cet idéal. Tous les saints ont été des combattants très durs contre eux-mêmes afin de rétablir l'ordre. Que Dieu règne en nous, que Dieu règne dans chacun d'entre nous, par l'obéissance à ses commandements, par l'exemple de la vie chrétienne, par l'exercice des vertus chrétiennes. Voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Or, maintenant, on ne parle plus du péché originel. Le baptême, par exemple, n'efface plus le péché originel. Le baptême est tout simplement un acte qui nous inscrit dans la société des chrétiens. Nous devenons membres de la communauté des chrétiens par le baptême. Et c'est pourquoi, je suppose, on a enlevé les exorcismes du baptême. Parce qu'on ne croit plus à la présence de Satan dans l'âme des enfants. Et pourtant, c'était bien ce que nous a toujours enseigné l'Église. Et c'était bien ce que disaient les prêtres lorsqu'ils disaient devant les enfants baptisés, « Sors, esprit immonde, et laisse la place au Saint-Esprit. » Voilà ce que l'Église a toujours enseigné. Maintenant, on n'enseigne plus cela. Alors on a supprimé aussi ce combat spirituel. Il n'y a plus d'effort de fait, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus l'exemple de la croix, il n'y a plus l'exemple de notre Seigneur crucifié, exemple que nous donne particulièrement le Saint Sacrifice de la Messe, Saint Sacrifice de la Messe qui continue la croix de notre Seigneur. Ayant les yeux sur la croix de notre Seigneur, nous comprenons que nous devons nous sacrifier, que nous devons combattre pour garder et développer notre vie chrétienne, la grâce que le bon Dieu nous a donnée au baptême. Voilà ce qu'est la vie du chrétien enseignée selon la tradition. Eh bien maintenant, ces choses-là ne sont plus connues, ne sont plus prêchées, ne sont plus données, parlées par le clergé. Et ainsi, on assiste à la décadence morale partout. On voit des pays entiers où on ne se confesse plus, comme la Hollande. On ne se confesse plus. Il faut croire qu'on n'a plus de péché, que le péché n'existe plus. Autant de constatations douloureuses et qui font que l'Église, dans les personnes elles-mêmes, est en train de disparaître. Nous devons demander à la Très Sainte Vierge Marie de continuer le combat, de nous faire comprendre la nécessité de ce combat spirituel. Vous constatez aussi facilement la situation des familles. Notre Seigneur ne règne plus dans la plupart des familles, même chrétiennes. Le divorce s'obtient avec une facilité extraordinaire. Que de divorcés, que de familles séparées, divisées parmi les chrétiens, parmi les catholiques. Que d'enfants abandonnés. Et même maintenant, on arrive, comme aux États-Unis en particulier, à annuler les mariages avec une facilité incroyable. Il suffit de se présenter à la curie épiscopale et de faire valoir quelques difficultés dans le mariage pour que le mariage soit considéré comme nul et que les époux puissent convoler dans d'autres noces et se marier de nouveau à l'Église. C'est la destruction de la famille, sans compter toutes les horreurs des avortements, de la contraception, de ces habitudes qui se prennent maintenant, même dans les familles chrétiennes, des abominations qui attireront les malédictions du bon Dieu sur ce monde. Car si le bon Dieu est patient, un jour viendra où tout cela, tous ces péchés seront punis sévèrement. Or, ce n'est pas non plus l'exemple que nous donne la Vierge Marie. Dans toutes ses apparitions, elle nous dit, elle nous redit, faites prière, faites pénitence, priez, faites pénitence. Elle l'a dit à Bernadette à Lourdes, elle l'a dit au petit de Fatima, elle l'a dit à la Salette, priez et faites pénitence. Et c'est cela qu'ont compris nos ancêtres qui étaient plus profondément chrétiens que nous le sommes maintenant. Ils supportaient les difficultés dans le ménage. Et on avait beaucoup d'enfants. Et on était heureux d'avoir des familles nombreuses. Il faut que l'on revienne à cela. Et nous, particulièrement, vous, mes bien chers amis, mesdames, messieurs, vous qui êtes dans les liens du mariage, gardez précieusement ces liens du mariage. S'il faut souffrir, acceptez la souffrance, acceptez le sacrifice. Mais de grâce, pensez à notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix. Pensez à la très sainte Vierge Marie. Demandez-lui de vous venir en aide. Consacrez votre foyer au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie. Et ainsi la paix reviendra s'il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, on ne peut plus rien supporter. Dès qu'il y a la moindre difficulté, c'est le divorce. Alors nous devons, nous, si nous voulons vraiment garder les bonnes traditions, et si nous voulons nous dire traditionnalistes, nous devons montrer l'exemple. N'êtes-vous pas étonné que tous les évêques du monde entier n'élèvent pas la voix contre toutes ces lois qui détruisent la famille, qui détruisent l'école chrétienne, qui détruisent la morale? Mais non, c'est le silence. Personne n'élève la voix. Personne ne défend les droits de Dieu. Mais tout le monde parle des droits de l'homme. Ah oui, les droits de l'homme. Mais on oublie les devoirs de l'homme, on oublie les commandements de Dieu. Or c'est ça qui devrait être à la base des sociétés, non pas les droits de l'homme. Car ces droits de l'homme ont été institués contre Dieu, contre l'autorité de Dieu. Une société ne peut pas vivre sur les droits de l'homme. Elle doit d'abord vivre sur les devoirs de l'homme, sur les commandements de Dieu. Le décalogue devrait être la base de la législation de toutes les sociétés. L'homme n'a des droits que dans la mesure de ses devoirs. Le devoir est premier, le droit vient ensuite. Nous naissons avec des devoirs. Et notre premier devoir, c'est d'adorer Dieu, de remercier Dieu, d'obéir à Dieu. Voilà notre premier devoir. Et parce que nous devons obéir à Dieu, alors nous avons des droits. Droit d'élever la famille convenablement. Droit d'être protégé pour honorer Dieu dans notre vie religieuse. Droit d'être protégé dans les droits de l'Église pour que l'Église puisse accomplir la gloire du bon Dieu, accomplir tout le rôle qu'elle a à accomplir ici-bas. Mais d'abord, le bon Dieu nous donne des devoirs. Or, actuellement, vous le savez bien et vous le voyez partout, on ne parle toujours que des droits de l'homme. Ces droits de l'homme détruisent la société, détruisent les familles. Et vous me demanderez sans doute maintenant, mais Monseigneur, quelles sont vos relations avec Rome ? Mes bien chers amis, les relations avec Rome ne changent pas beaucoup en ce sens que tant que Rome est occupée par des modernistes, et tant que les congrégations romaines, pour la plupart, sont dirigées par des modernistes, par des progressistes, par des libéraux, qui donc ont des idées qui ont été condamnées par les papes pendant 2 siècles, tant que Rome est dans les mains de ceux qui ont fait la révolution pendant le Concile, et qui ont pris les places et chassé tous les traditionalistes, chassé tous les conservateurs, afin d'instaurer un régime libéral à Rome, tant que ces hommes seront en place, il y a peu d'espoir d'avoir une solution pour nous. Parce que nous voulons continuer l'Église, comme toujours, pendant 20 siècles, nous ne voulons rien changer, nous voulons garder les principes, comme la très sainte Vierge Marie nous l'enseigne, comme le Concile de Trente nous l'a enseigné, comme tous les conciles nous ont enseigné. Nous sommes persécutés par les libéraux, car il y a toujours eu cette lutte des libéraux contre Rome, mais maintenant qu'ils sont à Rome et qu'ils ont pris la place à Rome, alors ils persécutent tous ceux qui gardent la tradition. Aussi, il ne faut pas nous étonner que nous soyons persécutés. Ce sont des gens qui ne peuvent pas admettre la tradition et qui voudraient être bien avec tout le monde, être amis avec tous les ennemis de l'Église, faire un pont avec le monde, avec ce monde plein de scandales. Quel pont, quelle union avec le monde, quelle union avec les protestants, avec les bouddhistes, avec les musulmans, quelle union pouvons-nous faire? Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église catholique pour le salut de tous les hommes. Et il n'y a pas d'autre religion vraie que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, que celle de la Vierge Marie. Il n'y a pas deux religions, il n'y a qu'une religion. Il n'y a qu'un Dieu au ciel. Il n'y a qu'un autre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Il n'y aura qu'un juge qui viendra sur les nuées du ciel pour juger tous les hommes. Alors nous tenons à cette vérité. Nous voulons cette vérité. Alors on nous dit que nous ne sommes pas charitables. Bien au contraire, c'est nous qui sommes charitables. C'est la vérité qui sauve. Et nous voulons convertir tous les protestants, tous les bouddhistes, tous les musulmans, tous les hommes du monde, tous les communistes. Nous voulons les convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons les convertir à la très sainte Vierge Marie. Mais non pas faire une union entre l'erreur et la vérité, entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan, comme dit saint Paul. On ne peut pas faire une union entre cela, c'est impossible. Alors, parce que nous refusons cette union, parce que nous refusons cet œcuménisme qui veut une union entre toutes les religions et qui détruit la vérité, alors nous sommes persécutés. Eh bien, il y a eu des millions d'autres persécutés au cours de l'histoire de l'Église pour défendre la foi catholique, pour défendre la tradition. Il y a eu des martyrs. Bien, s'il faut que nous soyons martyrs, s'il faut que nous donnions notre sang aussi pour conserver la foi de l'Église, pour conserver la foi catholique, eh bien nous devons être prêts à le faire, comme l'ont fait tant de saints, tant de martyrs, défendre la foi catholique jusqu'au sang, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons faire. Et si Rome ne veut pas revenir à la tradition, tant que Rome ne revient pas à la tradition, il est impossible de renouveler l'Église. L'Église ira toujours en se dégradant davantage. Mais nous sommes persuadés qu'il faut avoir confiance dans la très sainte Vierge Marie, en notre Seigneur. Un jour, Rome retournera à sa tradition. Elle nous remerciera d'avoir maintenu la tradition. Et elle s'appuiera sur vous, sur vos enfants que vous aurez élevés dans la tradition, afin de continuer l'Église. Voilà ce que nous devons demander au cours de cette journée de prière à la très sainte Vierge Marie. Le retour à la tradition, le retour au règne de son divin Fils. Il n'y a pas d'autre règne, il n'y a pas d'autre solution pour solutionner tous les problèmes, depuis les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, tous les problèmes ne peuvent se solutionner que par notre Seigneur Jésus-Christ et par la très sainte Vierge Marie. Voilà ce que nous pensons, voilà notre foi. Et nous voulons demeurer dans cette foi. Comme je l'ai déjà dit souvent, nous ne voulons pas mourir protestants, nous voulons mourir catholiques. Et nous ne voulons pas non plus mourir schismatiques. Nous ne voulons pas nous séparer de Rome. Rome, c'est notre ville. Rome, c'est notre cité. Nous ne voulons pas nous séparer du pape. Le pape est le successeur de Pierre et nous ne voulons pas nous séparer du pape. Mais nous demandons au pape, d'être Pierre, d'être le successeur de Pierre, de continuer à être celui qui continue la tradition et non pas à abandonner la tradition et ainsi à abandonner tous les fidèles aux mains de l'erreur et dans l'immoralité. Nous supplions le pape, les évêques, de revenir à la tradition. C'est le seul moyen pour que l'Église retrouve ce qu'elle a été autrefois, sa splendeur d'autrefois, et qu'il y ait de nouveau des vocations. Alors nous prenons la résolution aujourd'hui de nous consacrer à la Très Sainte Vierge Marie. Demain, je suis heureux de pouvoir reprendre les paroles du pape Pie XII pour consacrer le monde à la Très Sainte Vierge Marie. Vous le ferez en même temps que moi, pour demander à la Très Sainte Vierge Marie de sauver le monde et de sauver l'Église, et demander surtout la conversion de la Russie. C'est ce qu'elle a demandé à Fatima. Nous le demanderons avec les mêmes paroles que le pape Pie XII l'a fait. Et nous sommes persuadés qu'un jour, la Très Sainte Vierge nous écoutera. Voilà, mes bien chers amis, bien chers messieurs et dames, ce que je voulais vous dire. Et j'espère que toute cette journée de prière sera pour vous une journée de grâce, une journée de bénédiction, et que vous repartirez chez vous encouragés, remplis de ces grâces, comme la Pentecôte, comme une nouvelle Pentecôte, comme les apôtres sont partis, décidés à accomplir la volonté du bon Dieu, décidés à être missionnaires partout. Voilà ce que je vous souhaite et ce que je souhaite à toutes vos familles. Et je vous remercie de votre attention.
Credo in unum Deum.
Padre omnipotente, factore celi et terrae, principium omnium, et invisibilium.
Resurrectionem mortuum.
Agnus Dei, qui tollis peccatamus, miserere
Thank you.
Oh, respetus, et superabitam, et edificabum ecclesiam meam.
Constituit eum dominum domus sui,
et principem omnis possessionis sui.
Oremus. Deus omnium fiderium pastor et rector, famulum tuum Ioannem Paulum quem pastorem ecclesiae tue, presse voluisti propitius respici. Da eque esumus verbo et exemplo quibus praes proficere, ut ad vitam unacum grege sibi credito perveniat sempiter na. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.